5. Deux Cantois attendaient pour escorter le maître et son chef de la sécurité en bas. Pimli remarqua intérieurement combien il était étrange que tout le monde, les briseurs autant que le personnel d'Algulciento, en fût venu à les appeler « les ignobles », parce que cette expression avait été inventée par Brotigan. Quand on parle des anges, on entend battre leurs ailes, aurait pu dire la « ma bien-aimée de Prentiss ». Et Pimli supposait que, s'il existait de véritables animaux en cette fin du vrai monde, alors les ignobles feraient bien mieux l'affaire que les taïnes. Lorsqu'on les voyait sans leurs étranges masques vivants, on pouvait penser qu'ils étaient des taïnes, avec des têtes de rats. Mais à la différence des véritables taïnes, qui considéraient les humes, à quelques rares exceptions près, comme Pimli lui-même, comme une race inférieure, les Cantois vénéraient la forme humaine telle une divinité. Portaient-ils ces masques pour leur rendre hommage? Ils restaient bouche cousue à ce sujet, mais Pimli ne pensait pas que c'était leur motivation principale. Pour lui, en faisant ça, ils croyaient devenir humains. C'est pourquoi quand ils enfilaient leurs masques pour la première fois, il s'agissait de chair humaine cultivée spécialement pour cet usage. Ils prenaient également un nom humain pour accompagner leur aspect humain. Pimli savait qu'il croyait devoir un jour remplacer les êtres humains après la chute. Comment il pouvait s'imaginer une chose pareille, cependant, voilà qui le dépassait. Il y aurait le paradis. Après la chute, c'était une évidence pour quiconque avait vu l'Apocalypse. Mais la terre? Une terre nouvelle, peut-être. Mais Pimli n'en était même pas certain. Deux agents de sécurité cantois, Biman et Trelaney, se tenaient au bout du couloir, surveillant le haut des escaliers qui descendaient à la cave. Aux yeux de Pimli, tous les Cantois, même ceux à cheveux blonds et de carrure fine, ressemblaient étrangement à cet acteur de cinéma des années 40 et 50, Clark Gable. Ils avaient tous ses lèvres épaisses et sensuelles et ses oreilles en ailes de chauve-souris. Pourtant, quand on s'approchait tout près, on apercevait les rides artificielles sur le cou et derrière les oreilles, là où les masques humains se mettaient à plisser en se fondant dans la chair poilue et hérissée de dents, leur véritable nature, qu'ils l'acceptent ou pas. Et puis il y avait les yeux. Ils étaient cernés de poils et en regardant attentivement, on comprenait que ce qu'on avait pris pour des orbites n'était en fait que des trous dans ces incroyables masques vivants. Parfois, on entendait le masque lui-même respirer, ce que Pimli trouvait à la fois bizarre et légèrement révoltant.
« Heil !» dit Biman.
« Heil !»
dit Trelaney. Pimli et Finley leur rendirent leur salut. Ils portèrent tous le poing à leur front et Pimli prit la tête du cortège pour descendre les escaliers. Dans le couloir d'en bas, en passant devant deux panneaux qui disaient respectivement « Nous devons tous travailler à un environnement sans feu et vive les Cantois », Finley dit à mi-voix
« Ils sont tellement bizarres ».
Pimli sourit et lui mit une claque dans le dos. Voilà pourquoi il aimait vraiment Finley Otego. Ils étaient comme bonnet blanc et blanc bonnet, et ils pensaient toujours pareil. 6. La majeure partie du sous-sol de la maison d'Amli était une grande pièce bourrée à craquer de matériel. Tout ne fonctionnait pas. Et une partie des instruments qui fonctionnaient bel et bien ne leur était d'aucune utilité, car ils n'en comprenaient pas la moitié. Mais ils étaient très au fait de l'équipement de surveillance et du télémètre qui mesurait les sombres, ou unités d'énergie psychique dépensées. Il était formellement interdit aux briseurs d'utiliser leurs capacités psychiques en dehors du bureau. La plupart des hommes et des femmes étaient tellement conditionnés qu'ils étaient incapables d'uriner sans les stimuli visuels qui leur assuraient qu'ils pouvaient y aller. Ça allait rarement plus loin que de refiler une migraine à quelqu'un qu'ils n'aimaient pas ou renverser un bac le long de l'allée, mais les hommes de Pimli enregistraient tout, et les écarts considérés comme volontaires étaient punis. Légèrement pour les délits mineurs, avec une sévérité graduelle pour les récidives. Et comme Pimli aimait à le répéter aux nouveaux venus sur le ton de la leçon, du moins à l'époque où il y avait encore des nouveaux venus. « Soyez certains que votre péché vous rattrapera. » L'évangile, selon Finley, était encore plus direct.
« Le télémaître ne ment jamais. »
Aujourd'hui, ils ne trouvèrent rien d'autre que de petites anomalies passagères sur les relevés du télémètre, aussi insignifiantes que des enregistrements de paix ou d'euros sur une écoute. Les cassettes et les mains courantes de l'équipe de garde ne révélèrent rien de plus intéressant.
« Satisfait, Sai ?»
demanda Finley avec un je ne sais quoi dans la voix qui poussa Pimli à faire brutalement volte-face et lui adresser un regard cassant.
« Et toi ?»
Finley Otego poussa un soupir. Dans des moments de ce genre, Pimli regrettait que Finley ne soit pas hume, ou de n'être pas lui-même un vrai Taïn. Le problème, c'était les yeux noirs inexpressifs de Finley. Il avait presque les yeux en boutons de bottine d'une poupée de chiffon, et il était tout bonnement impossible de déchiffrer quoi que ce soit dans son regard. Sauf peut-être si on était soi-même Taïn.
Je ne me suis pas senti satisfait depuis des semaines, finit par répondre Finley. « Je bois trop de graffes pour m'endormir, puis je me traîne pendant toute la journée à rembarrer tous ceux qui passent par là. C'est en partie dû à la perte de communication depuis la disparition du dernier rayon. »«
Tu sais que c'était inévitable. »«
Oui, bien sûr que je le sais. Ce que je dis, c'est que j'essaie de trouver des raisons rationnelles pour expliquer des sentiments irrationnels, et que ce n'est jamais bon signe. »
Sur le mur du fond s'étalait une photo des chutes du Niagara. Un garde cantois l'avait retournée tête en bas. Les ignobles considéraient que mettre les photos à l'envers était le comble absolu en matière d'humour. Pimli ne savait pas pourquoi. Mais au fond, qui en avait quoi que ce soit à foutre?
« Je sais faire mon foutu boulot, » se dit-il en replaçant les chutes du Niagara dans le bon sens. « Je sais le faire et il n'y a que ça qui compte. Grand merci à Dieu et à l'homme Jésus. »
« On a toujours su que la situation allait devenir loufoque à la fin, » dit Finley. « Alors je me dis que c'est juste ça. Ce... vous savez... »«
Ce pressentiment, »
compléta feu Paul Prentice. Puis il sourit de toutes ses dents et posa son index droit sur un anneau fait de son pouce et de son index gauche. Ce geste taïn signifiait « Je te dis la vérité ».
Ce sentiment irrationnel.
Oui, là, je sais bien sûr que ce maudit lion en sang n'est pas réapparu dans le nord, et je ne crois pas non plus que le soleil se refroidisse de l'intérieur. J'ai entendu des récits disant que le roi rouge était devenu fou et que le dentête allait prendre sa place. Et tout ce que je peux dire, c'est « je le croirai quand je le verrai ». Pareil pour cette merveilleuse nouvelle, selon laquelle un homme pistolero aurait déboulé de l'ouest pour sauver la tour, comme le prédisent les vieux contes et les vieilles chansons. Des conneries de A à Z.
Pimli lui donna une nouvelle claque dans le dos.
« Ça me réchauffe le cœur de te l'entendre dire. »
Et c'était vrai. Finley Otego avait abattu un sacré boulot depuis qu'il avait pris le poste de chef. Son équipe d'encadrement avait bien dû sacrifier une demi-douzaine de briseurs au cours des ans. Rien que des idiots avec le mal du pays, essayant de s'échapper et en faire lobotomiser deux autres. Mais Ted Brottigan était le seul à avoir réussi à faire le mur. Cette expression-là, Finley l'avait attrapée dans un film intitulé « Stalag 17 ». Et il l'avait ramené par la peau du cou, pardieu. Les Cantois s'en étaient enorgueillis et le chef de la sécurité n'avait rien objecté. Mais Pimli connaissait la vérité. C'est Finley qui avait tout orchestré, chaque mouvement du début à la fin.
Mais ce n'est peut-être pas qu'une histoire de nerfs, ce pressentiment, poursuivit Finley. Je crois réellement que, parfois, les gens peuvent avoir des intuitions de bonne foi.
Il éclata de rire.
Comment ne pas le croire dans un endroit infesté à ce point d'images de précog et de postcog?
Mais pas de téléport, corrigea Pimli, n'est-ce pas? La téléportation était le seul talent prétendument extraordinaire devant lequel tout le personnel du Devar tremblait, et à raison. Les dégâts potentiels de la téléportation étaient incommensurables. Rapporter 2 hectares d'espace sidéral, par exemple, et créer un ouragan causé par l'appel d'air. Heureusement, il existait un test très simple permettant d'isoler ce talent. Facile à administrer, bien que l'équipement requis fût encore un legs du vieux peuple et qu'aucun d'eux ne sût combien de temps encore il fonctionnerait. Et une procédure tout aussi simple, elle aussi léguée par les grands anciens, pour déconnecter des circuits organiques aussi dangereux. Le docteur Gangli était en mesure de régler le compte d'un téléport en moins de 2 minutes.
C'est tellement simple qu'à côté, une vasectomie ressemble à de la neurochirurgie, avait-il dit un jour.
Absolument aucun putain de téléport,
claironna Finley en conduisant Pimli jusqu'à une console qui rappelait sinistrement la visualisation du Dogan de Susanna Dean. Il désigna 2 cadrans marqués des raflures des grands anciens, des marques similaires à celles laissées sur la porte dérobée. Les aiguilles des 2 cadrans reposaient sur le haut, situé à gauche. Lorsque Finley les tapota de ses pouces poilus, elles sursautèrent puis retombèrent.
« Nous ne savons pas ce que ces cadrans étaient censés mesurer au départ, » expliqua-t-il. « Mais il y a une chose qu'ils mesurent à coup sûr, c'est le potentiel de téléportation. Nous avons vu des briseurs essayer de dissimuler ce talent, et ça ne marche pas. S'il y avait un téléport dans la bergerie, Pimli au New Jersey, » ces aiguilles danseraient la gigue jusqu'à la marque 50, ou même 80.
Bien. Mi-souriant, mi-grave, Pimli se mit à compter sur ses doigts. Pas de téléport, pas de lion revenant du nord, pas d'homme pistolero. Oh, et les Cap-Vertes ont succombé à un virus informatique. Et si c'est tout ce qu'on a, qu'est-ce qui te tracasse tellement? Il est où? Ce coup de Jarnac.
C'est parce que la fin est proche, j'imagine, dit Finley avec un profond soupir. Je vais doubler la garde pour la ronde de nuit, en tout cas, et les humes le long de la clôture aussi.
Parce que tu sens le coup de Jarnac, fit Pimli un petit sourire aux lèvres.
Le coup de Jarnac, oui, là.
Finley ne souriait pas, lui. Ses petites dents rusées restèrent camouflées à l'intérieur de son museau marron et lustré. Pimli lui donna une claque dans le dos. « Allez, viens faire un tour dans le bureau. Voir tous ces briseurs à l'œuvre te remontera peut-être le moral. »«
Peut-être bien, oui, »
acquiesça Finley, mais toujours sans sourire. « Ça va aller, Finn, » dit Pimli d'une voix douce.
« Sans doute, oui. »
fit le Taïn en balayant d'un regard dubitatif l'équipement autour d'eux. Puis Biman et Trélané, les 2 ignobles qui attendaient respectueusement à la porte que les 2 gros bonnets aient fini leur palabre.
Sans doute.
Sauf que dans son cœur, il n'y croyait pas. La seule chose dont son cœur était certain, c'est qu'il ne restait aucun téléport à Algulciento. Le télémètre ne mentait jamais. 7. Biman et Trélané les escortèrent tout le long du couloir lambrissé du sous-sol jusqu'à l'ascenseur réservé au personnel, lambrissé lui aussi. Il y avait un extincteur accroché au mur de la cabine, ainsi qu'un panonceau rappelant aux Devar Folken qu'il fallait qu'ils travaillent ensemble à un environnement sans feu. Celui-là aussi s'était fait mettre la tête en bas. Le regard de Pimli croisa celui de Finley. Le maître crut déceler une pointe d'amusement dans l'œil de son chef de la sécurité, mais peut-être au fond n'avait-il aperçu que le reflet de son sens de l'humour à lui, comme son propre visage dans un miroir. Finley décrocha le panonceau sans un mot et le replaça à l'endroit. Aucun d'eux ne fit de commentaire sur le mécanisme de l'ascenseur qui faisait un brouhaha de mauvais augure. Si sur cette façon qu'avait la cabine de trembler sur son axe, si elle s'immobilisait, la fuite par la trappe du haut ne poserait aucun problème, même pour un gars légèrement enveloppé, très enveloppé, comme Prentice. La maison d'Amelie n'avait rien d'un gratte-ciel et il y avait tout le renfort nécessaire à portée de main. Ils atteignirent le troisième étage et le panneau sur la porte fermée de l'ascenseur se révéla être dans le bon sens. Il indiquait « Réservé au personnel ». Et si vous avez atteint cet étage par erreur, redescendez immédiatement. Vous ne serez pas sanctionné si vous faites un rapport immédiatement. Tout en sortant sa clé, Finley demanda avec une désinvolture qui pouvait être feinte, avec ses foutus yeux noirs indéchiffrables.
« Vous avez des nouvelles de ça, Isair ?»«
Non, » répliqua Pimli, plutôt cassant. « Et d'ailleurs, je n'en attends pas vraiment. Il y a une raison à notre isolement ici, volontairement oublié au milieu du désert, comme les scientifiques du projet Manhattan dans les années 40. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit que ce serait probablement, eh bien... la dernière fois que je le voyais.
On se détend. Je posais juste la question comme ça.
Il fit glisser sa carte-clé dans la fente et la porte de l'ascenseur s'ouvrit en coulissant, dans un crissement infernal. 8. Le bureau était une grande pièce tout en longueur et haute sous plafond, située au centre de Damley. Elle était elle aussi lambrissée et s'élevait sur l'équivalent de 3 étages, jusqu'à un toit en verrière qui laissait le soleil si cher payé d'algules déverser sa lumière à l'intérieur. Sur le balcon en face de la porte par laquelle étaient entrés Prentice et le Tego, se trouvait un trio insolite, constitué d'un taïn à tête de corbeau du nom de Jacques Lee, d'un technicien cantois appelé Conroy et de 2 gardes humes dont Pimli ne se rappela pas instantanément les noms. Taïn, cantois et humes s'entendaient durant les heures de travail selon un principe de courtoisie prudente et parfois fragile. Mais personne ne s'attendait à les voir faire ami-ami une fois sortis du boulot. Et le balcon était strictement interdit pour ce qui concernait les mondanités. Les briseurs en dessous n'étaient ni des animaux dans un zoo, ni des poissons exotiques dans un aquarium. Pimli et Finley Otego avaient surenchéri, avaient été très clairs sur ce point auprès de son personnel. Le maître d'Algul Siento n'avait eu à lobotomiser qu'un seul employé depuis toutes ces années qu'il occupait sa fonction. Un hume parfaitement demeuré du nom de David Burke, qui avait purement et simplement lancé quelque chose. Est-ce que c'était des cosses de cacahuètes sur la tête des briseurs en dessous? Lorsque Burke avait compris que le maître allait réellement le faire lobotomiser, il avait supplié qu'on lui laisse une seconde chance, en promettant que jamais plus il ne ferait une chose aussi stupide et dégradante. Pimli avait fait la sourde oreille. Il avait saisi l'occasion de faire un exemple qui marquerait les esprits pour des années, voire des décennies. À présent, on croisait cet idiot de Burke, au sens littéral du terme, se baladant sur l'allée ou près de la frontière ouest, la bouche molle et le regard vaguement perplexe. « Je me rappelle presque qui je suis, je me rappelle presque ce que j'ai fait pour en arriver là, » disaient ses yeux. Il était devenu l'exemple vivant de ce qui ne se faisait tout simplement pas en présence de briseurs au travail. Mais aucune règle n'interdisait explicitement aux membres du personnel de monter au balcon, et ils le faisaient tous de temps à autre. Parce que c'était rafraîchissant. Tout d'abord, se trouver à proximité des briseurs à l'œuvre rendait tout discours superflu. Ce qu'il appelait le bon esprit commençait à agir quand on remontait le couloir du troisième étage depuis l'un des ascenseurs, et en ouvrant les portes donnant sur le balcon, on se faisait assaillir par le bon esprit qui montait à la tête, ouvrant toutes sortes de portes de perception. Pimli s'était dit à maintes occasions qu'Aldous Huxley serait devenu complètement dingue dans un endroit comme celui-là. Parfois, on se retrouvait avec les talons quittant le sol en une sorte de flottement foireux, en apesanteur. Ce qu'on avait dans les poches avait tendance à en sortir et à voltiger en l'air. Des situations déconcertantes semblaient se résoudre dès l'instant où on tournait ses pensées vers elles. Si on avait oublié quelque chose, un rendez-vous à 5 heures ou le deuxième prénom de son beau-frère, par exemple, c'était là qu'il fallait venir pour s'en souvenir. Et même si on se rendait compte que ce qu'on avait oublié était important, on ne se sentait jamais abattu. Les Falken quittaient le balcon avec le sourire aux lèvres, même s'ils y étaient montés de l'humeur la plus massacrante qui fût. L'humeur massacrante était une excellente raison de monter, d'ailleurs. C'était comme si une sorte de gaz hilarant, invisible à l'œil et impossible à mesurer, même par le télémètre le plus sophistiqué de la Terre, se dégageait en continu des briseurs en dessous. Tous les deux, ils adressèrent un aile au trio de l'autre côté, puis s'approchèrent de la large rambarde de chêne et se penchèrent pour regarder en bas. Cette pièce spacieuse aurait pu être la bibliothèque bien fournie de quelque club londonien bon ton. Des lampes à l'éclat tamisé, pour beaucoup par d'authentiques abat-jour Tiffany, étaient posées sur de petites tables ou scintillaient sur les murs. Lambrissées de chêne, cela allait de soi. Les tapis étaient turcs et d'un raffinement exquis. Il y avait un Matisse sur un mur, un Rembrandt sur un autre, et sur un troisième, la Mona Lisa. L'original, pas cette pâle copie exhibée au Louvre sur la terre-clef. Un homme se tenait devant, les mains croisées dans le dos. D'en haut, on aurait dit qu'il étudiait la toile, essayant de déchiffrer ce fameux sourire énigmatique, peut-être. Mais Pimli n'était pas dupe. Les hommes et les femmes, avec un magazine à la main, avaient l'air de lire, quant à eux. Mais quiconque les observant d'un peu plus près aurait constaté que leur regard était perdu au-dessus de leur National Geographic ou à côté de leur Newsweek. Une gamine de 11 ou 12 ans, en ravissante robe d'été à rayures, qui avait dû coûter $1,600 dans une boutique pour jeune maman débordée, était assise devant une maison de poupées près de la cheminée. Mais Pimli savait qu'elle ne prêtait aucune attention à cette délicieuse réplique de Damli. 33. Ils étaient 33 en bas. 33 en tout. À 8 heures. 1 heure après l'extinction du soleil artificiel. 33 briseurs frais et dispos entreraient en groupe. Et il y avait un type, un, et un seul, qui allait et venait comme bon lui semblait. Un type qui avait fait le mur sous les barbelés et qui n'avait pas payé pour ça. Sauf qu'on l'avait ramené, et pour cet homme-là, c'était assez cher payé. Et comme si cette pensée l'avait convoqué, la porte au bout de la pièce s'ouvrit, et Ted Brottigan se glissa furtivement à l'intérieur. Il portait toujours sa casquette de tweed. Danica Rostov leva les yeux de sa maison de poupée et lui sourit. Brottigan lui répondit par un clin d'œil. Pimli donna un petit coup de coude à Finley.
Finley, je le vois.
Mais il faisait plus que le voir. Il le sentait. À la seconde où Brottigan avait pénétré dans la pièce, ceux sur le balcon, et plus important encore, ceux au rez-de-chaussée, avait senti une onde de puissance. Ils ne savaient toujours pas vraiment ce qu'ils avaient dégoté avec Brottigan, et le matériel d'évaluation ne leur était guère utile sur ce plan. Ce vieux chien en avait fait sauter quelques pièces lui-même, et à dessein. Le maître en était convaincu. S'il n'était pas seul de son espèce, les ignobles n'en avaient jamais rencontré d'autres au cours de leur chasse aux jeunes talents. Chasse aujourd'hui suspendue, ils avaient tous les talents nécessaires pour terminer ce boulot. Mais la chose qui paraissait claire, c'était la faculté de catalyseur de Brautigan. Il n'était pas seulement un médium puissant en soi, il était en mesure de stimuler les dons des autres, rien qu'en se tenant près d'eux. Les pensées de Finley, généralement illisibles même pour les briseurs, scintillaient à présent dans l'esprit de Pimley en lettres de néon. « Finley, il est extraordinaire, Pimley, et pour autant que nous le sachions, unique en son genre. » « Tu as vu ce truc ?» Image. Des pupilles qui se dilatent et se rétrécissent à toute vitesse. Finley.
« Oui, vous savez ce qui provoque ça. »
Pimley. « Pas du tout. Et je m'en fiche, cher Finley. Je m'en fiche. Ce vieux. » Image. Un vieux bâtard avec de la bardane dans sa fourrure emmêlée, clopinant sur trois pattes. En a presque fini avec son travail. Presque temps de... Image. Un pistolet. Le Beretta de l'un des gardes Hume, appuyé sur la tempe du vieux bâtard. Trois étages en dessous d'eux, le sujet de leur conversation ramassa un journal. C'étaient tous de vieux journaux, aussi vieux que Brautigan lui-même, périmés depuis des années. S'assit dans un fauteuil club en cuir bien rembourré, tellement volumineux qu'il parut presque engloutir l'homme. Ce dernier se mit apparemment à lire. Pimley sentit la force psychique passer devant eux, les traverser, monter vers la lucarne et la traverser aussi, s'élever vers le rayon qui courait juste au-dessus d'Algul, s'attaquer à lui, les bréchant, les rôdant, frottant sans relâche contre le flux. Creusant des trous dans la magie. Travaillant patiemment à arracher les yeux de l'ours, à craqueler la carapace de la tortue, à briser le rayon qui reliait Chardic à Mathurin, et à terrasser la tour qui se tenait entre eux. Pimley se tourna vers son compagnon et ne fut pas surpris de constater qu'il pouvait à présent voir les petites dents rusées dans la tête de la fouine. Enfin, il souriait. Il ne fut pas plus surpris de découvrir qu'il parvenait à déchiffrer le regard de ses yeux noirs. Dans des circonstances ordinaires, les taïnes étaient en mesure d'envoyer et de recevoir des communications mentales très simples, mais ne pouvaient être télépathes. Ici, cependant, tout changeait. Ici, Finley Otego était en paix. Ses préoccupations... Le coup de Jarnac avait disparu, du moins pour le moment. Pimley envoya à Finley une série d'images vives, une bouteille de champagne se brisant sur la coque d'un bateau, des centaines de chapeaux noirs de bacheliers américains lancés en l'air, un drapeau qu'on plantait au sommet de l'Everest, un couple s'échappant en riant d'une chapelle, baissant la tête sous la volée de riz, une planète, la Terre, se mettant soudain à briller d'un éclat aveuglant. Des images qui disaient toutes la même chose.
Oui, acquiesça Finley,
et Pimley se demanda comment il avait pu un jour trouver ses yeux noirs indéchiffrables.
Oui, effectivement, la victoire nous attend.
À cet instant, aucun des deux ne regardait en bas. S'ils l'avaient fait, ils auraient vu Ted Brautigan, un vieux chien, certes, et fatigué, mais peut-être pas aussi fatigué que le pensaient certains, qui levaient les yeux vers eux, avec une ombre de sourire, un sourire bien à lui. 9. Il ne pleuvait jamais dehors. Du moins, n'avait-il jamais plu depuis l'arrivée de Pimley. Mais parfois, dans les ténèbres impénétrables des nuits d'Algul, on entendait de violentes salves de tonnerre sec. La plupart des membres du personnel du Devartois étaient entraînés à dormir sous le feu répété. Mais Pimley se réveillait fréquemment, son cœur battant à tout rompre dans sa gorge.
le Notre Père défilant inconsciemment dans son esprit comme un cercle de rubans rouges. Plus tôt dans la journée, en parlant avec Finley, le maître d'Algul Siento avait utilisé l'expression « coup de Jarnac » avec un sourire embarrassé. Et ça s'expliquait. C'était là une expression décalée, comme s'il avait employé un refrain enfantin, comme Amstramgram ou un de trois soleils. À présent, allongé dans son lit de la maison Chapli, ou maison de la merde pour les briseurs, diamétralement opposé à la maison d'Amli, à l'autre bout de l'allée, Pimli se remémorait ce sentiment, cette certitude pure et dure que tout allait bien se passer. Succès assuré, juste une question de temps. Sur le balcon, Finley avait partagé cette certitude, mais Pimley se demandait si le chef de la sécurité était en ce moment, les yeux grands ouverts tout comme lui, à se dire combien il était facile de se fourvoyer en présence de briseurs à l'œuvre. Parce que, grand merci, ils envoyaient leur gaz hilarant, leur vibration de bon esprit. Et supposons, juste comme ça, que quelqu'un soit en train de canaliser cette impression, qu'il leur envoie comme une berceuse. Endors-toi, Pimley, endors-toi, Finley, plongez dans le sommeil, mes petits enfants. Ridicule comme idée, complètement paranoïaque. Pourtant, quand un double roulement de tonnerre remonta de ce qui devait être le sud-est, en provenance de Fédic et de Discordia, pour résumer, Pimley Prentice se redressa dans son lit et alluma sa lampe de chevet. Finley avait parlé de doubler la garde cette nuit, à la fois dans les miradors et le long des clôtures. Peut-être demain pourrait-il la tripler, simplement par précaution. Et parce que pêcher par suffisance si près du but serait vraiment une très mauvaise chose. Pimley se leva de son lit, grande silhouette avec son tablier de sapeur poilu, vêtu seulement d'un bas de pyjama bleu. Il pissa, puis s'agenouilla devant le couvercle refermé des toilettes, croisa les mains et pria jusqu'à ce que le sommeil le gagne. Il pria pour pouvoir accomplir son devoir. Il pria pour pouvoir voir les ennuis avant que les ennuis ne le voient. Il pria pour sa ma, tout comme Jim Jones avait prié pour la sienne en regardant les disciples alignés se diriger vers le baquet de jus de fruits empoisonnés. Il pria jusqu'à ce que meure le tonnerre, réduit à un chevrotement sénile. Puis il retourna se coucher, ayant retrouvé son calme. Sa dernière pensée avant de sombrer fut qu'il faudrait tripler la garde dès le lendemain matin. Et c'est la première chose qui lui vint à l'esprit lorsqu'il ouvrit les yeux dans cette chambre baignée de lumière artificielle. Parce que ce n'était qu'en approchant de la maison qu'on prenait soin de ne pas casser les œufs.